Un grand bâtiment émerge dans la nuit noire. Une brume épaisse dissimule les quelques lumières qu'il émet. Le lieu semble habité. Vous passez son grand portail et vous vous dirigez vers l'entrée. Vous toquez et les immenses portes grincent en s'ouvrant. Elles donnent sur un couloir qui semble interminable. En vous avançant, vous remarquez qu'au mur, la peinture se décolle. Tout semble en ruine. Il y a pourtant quelques enfants qui jouent ici et là. Vous entendez leur rire, au loin, comme un écho. Vous ne savez même plus pourquoi vous êtes ici. S'agit-il d'un ancien hôpital hanté par ses patients? D'un château à l'abandon? D'un quelconque institut? Non. C'est un pensionnat et vous êtes, contre votre gré, un des résidents. Avec l'orphelinat, le pensionnat est de ces lieux qui alimentent les films d'horreur et symbolisent l'isolement d'une jeunesse cadenassée par les vieilles coutumes qui préférerait s'épanouir hors de son enceinte. Peu éclairé, souvent éloigné de tout, il est présent dans le giallo avec Suspiria et Phenomena, dans l'horreur plus contemporaine avec Les Chines du Diable et La Maison des Ombres, ainsi que dans des films plus fantastiques avec Harry Potter ou Miss Peregrine et les Enfants Particuliers. Hélas, toutes les histoires de pensionnat ne sont pas aussi belles que celles du plus connu des sorciers. Et c'est ce dont nous allons vous parler ce soir.
Je suis Mathias.
Je suis Charles.
Bienvenue dans le Bureau des Mystères. Le dédoublement d'Émilie Saget. Dans un prestigieux pensionnat pour jeunes filles, une enseignante aurait provoqué l'effroi chez ses élèves. Une peur qui peut se comprendre, puisqu'elle l'aurait vue se dédoubler à plusieurs reprises. Cette étrange histoire commence en 1845, tout près de la petite ville de Valmiera, en Lettonie. Nous sommes à moins d'une soixantaine de kilomètres de Riga, la capitale, au cœur d'une région que l'on appelle la Livonie. C'est là, dans ces terres qui précèdent les côtes de la mer Baltique, que se trouve le pensionnat de Nevelk, une école pour les jeunes filles issues de nobles familles des environs. Elles sont au nombre de 42 au début de l'année scolaire, mais ce nombre va drastiquement diminuer en raison d'étranges et effrayants phénomènes autour d'une de leurs enseignantes. Cette enseignante, c'est Émilie Saget. En 1845, cette jeune Française de 32 ans, originaire de Dijon, arrive au pensionnat de Nevelk. Elle a la peau blanche, les cheveux châtains et les yeux d'un bleu très clair. Un peu plus grande que la moyenne, sa silhouette très fine, presque maigre, se distingue dans les couloirs de l'école. C'est une femme à l'intelligence remarquable, une excellente professeure, qui est toujours appréciée pour sa gentillesse et son calme. Elle est toujours de bonne humeur, malgré des moments d'anxiété qui peuvent parfois la traverser, et Émilie Saget a tout de l'enseignante idéale pour faire carrière au pensionnat de Nevelk. Et elle aurait sans doute gardé son poste très longtemps, si son double n'était pas venu jouer les troubles fêtes. Quelques semaines après son arrivée, les élèves ont remarqué qu'Émilie Saget se trouvait parfois à deux endroits à la fois. Il n'était pas rare qu'une jeune fille dise l'avoir vue dans une chambre, et qu'une autre lui réponde « Mais c'est pas possible, je viens de la croiser dans l'escalier ». Bien sûr, les adolescentes se sont d'abord dit qu'elles s'étaient trompées, qu'elles avaient mal vu, qu'il s'agissait peut-être d'une autre personne. Mais ces observations n'ont fait que s'accumuler, et les professeurs ont dû calmer les pensionnaires en leur disant que toutes ces histoires n'avaient pas de sens. Mais ils n'allaient pas tarder, eux aussi, à être très surpris. Un jour, alors qu'elles regardaient leur professeur écrire sur le tableau noir, toute une classe a ressenti un frisson d'angoisse. Devant elles se trouvaient, soudainement non plus une, mais deux Émilie Saget. L'espace de quelques instants, l'enseignante et son double faisaient face aux 13 élèves, chacune avec un bout de craie à la main. Seule la vraie Émilie Saget écrivait sur le tableau, son double s'était contenté de reproduire les gestes comme un mime fantomatique. Toutes les jeunes filles présentes dans la salle auraient assisté à cette apparition. Elles auraient témoigné auprès des autres professeurs en donnant des versions qui étaient toutes concordantes. Et les mois qui ont suivi, d'autres phénomènes tout aussi bizarres auraient continué à se produire. Dans ce pensionnat pour jeunes filles de bonne famille, il n'était pas rare que certaines élèves soient invitées à des gambals ou à des fêtes champêtres. Un soir, une certaine mademoiselle Anthony de Wrangel devait se préparer pour un de ses rallyes. Émilie Saget s'était proposée de l'aider à la faire belle. Et alors que sa professeure était en train de ranger une robe dans l'armoire, la jeune Anthony a vu, dans le reflet du miroir, deux Émilie Saget. Complètement choquée, elle s'est évanouie. Semaine après semaine, les phénomènes sont faits de plus en plus réguliers. Parfois, au dîner, le double apparaissait et faisait mine de manger, comme Émilie Saget, en reproduisant les mêmes gestes. À d'autres moments, l'enseignante se levait de sa chaise et laissait apparaître son double, toujours assis. Élèves, professeurs et employés du pensionnat auraient tous été témoins de ces apparitions. Le cas d'Émilie Saget est devenu encore plus troublant un jour où, épuisée par une grippe, elle était restée clouée au lit. Anthony de Wrangel était à nouveau à ses côtés, visiblement elle s'était remise de ses émotions depuis, et elle était en train de lui lire un livre. Le visage de la professeure, qui était déjà pâle de nature et évidemment encore plus blême en raison de la maladie, est soudain devenu livide. « Est-ce que votre état empire ?» lui a demandé l'adolescente. « Non, non, lui a répondu Émilie Saget, d'une voix un peu éthérée, faible, presque inaudible. » Quelques secondes plus tard, Anthony de Wrangel aurait vu le double en train de faire les 100 pas dans la chambre. C'était comme si le double avait puisé le peu d'énergie qui restait à Émilie Saget pour se matérialiser. Lorsqu'on parle de cette affaire très étrange, il y a un épisode qui est très souvent mis en avant. C'est normal puisqu'il s'agit du plus impressionnant. La scène se déroule lors d'un cours de couture, en présence des 42 élèves du pensionnat. Toutes les jeunes filles sont installées dans la grande salle, sur une table qui fait face à 4 immenses baies vitrées. Depuis leur siège, elles ont une belle vue sur le parc qui entoure le pensionnat. Toutes voient donc très bien Émilie Saget dans ce parc, en train de ramasser des fleurs pour en faire un joli bouquet. Au bout d'un moment, la professeure chargée de les surveiller doit s'absenter quelques instants. Et comme tu le sais, Charles, c'est souvent dans ce genre de moment que les élèves peuvent être subitement très dissipés.
Oui, je confirme. En tant que quelqu'un qui a enseigné, oui.
Mais cette fois-là, ça n'a pas été le cas. En fait, la professeure venait à peine de partir qu'Émilie Saget était venue s'installer dans le siège laissé vacant pour les surveiller. Mais le problème, c'est qu'elle était aussi toujours dans le jardin. La Émilie Saget du parc semblait en revanche un peu plus faible que quelques instants auparavant. Ses mouvements étaient lents, comme si elle était totalement épuisée.
C'est marrant parce que je vois en quoi ça peut servir en termes pédagogiques, ce dédoublement. Ça peut avoir une utilité.
Ah bah pour surveiller c'est plus pratique, encore voilà. Faut-il que les deux aient la même énergie, ce qui n'a pas l'air d'être le cas. Parce que là, celle de la classe était parfaitement immobile, imperturbable. Elle était là sans être là en fait. Deux des élèves les plus courageuses ont décidé d'aller la toucher, et elles auraient senti une légère résistance. C'était pas vraiment comme un toucher humain, c'était plutôt comme du tissu qui flotte dans l'air. Une des deux aurait même traversé en partie le double, sans qu'il bouge d'un pouce. L'apparition a fini par disparaître lentement, et au fur et à mesure qu'elle s'effaçait, la Émilie Saget du jardin semblait reprendre des forces. Lorsqu'elle a fini par revenir au pensionnat avec son bouquet à la main, les élèves lui ont raconté ce qu'elles avaient vu. Émilie Saget ne se souvenait de rien, à part d'avoir pensé, lorsqu'elle était dans le parc, qu'il ne fallait pas laisser ces jeunes filles sans surveillance. Les phénomènes touchant Émilie Saget se seraient ainsi poursuivis pendant un an et demi, entre 1845 et 1846, quasiment toutes les semaines. Émilie Saget ne voyait pas son double. Elle savait, grâce au témoignage, qu'il était là. Mais elle ne le voyait pas, et tant mieux. Parce que voir son double, qu'on appelle aussi le doppelganger dans les mythologies nordiques et germaniques, peut être considéré comme un présage de mort. Émilie Saget n'est pas morte lors de son passage au pensionnat, heureusement. Mais elle n'y a pas fait long feu. Parce qu'évidemment, comme tu t'en doutes, cette histoire a fini par arriver aux oreilles des parents d'élèves. Et des jeunes filles sont parties en vacances avec dans leur famille et ne sont jamais revenues. Sans doute parce que leurs parents ne voulaient plus les renvoyer dans un pensionnat où il y avait une telle professeure. En 18 mois, les effectifs du pensionnat de Neuwolk sont passés de 42 à 12 élèves. Dans ces conditions, la direction n'a eu d'autre choix que de renvoyer Émilie Saget, qui était pourtant parfaite en tout point. Ceux qui s'étaient habitués à son double ont même été tristes de la voir partir. Mais pas autant qu'Émilie Saget elle-même, qui aurait déclaré ceci en apprenant la nouvelle. La 19e fois, c'est vraiment très très dur à supporter. Émilie Saget aurait été renvoyée par le passé de 18 établissements à cause de son double. Cette dernière expérience l'aurait ensuite poussée à arrêter d'enseigner. Après son renvoi du pensionnat, Émilie Saget serait allée vivre chez sa belle-sœur, qui avait beaucoup d'enfants. Les plus jeunes d'entre eux se seraient tellement habitués à son double qu'ils disaient avoir deux tantes Émilie. Elle sera ensuite partie en Russie, et l'histoire se termine ici, ou presque. Car évidemment, avec ce genre d'histoire, on a envie d'extrapoler un peu, on a envie de savoir qu'est-ce qui se passe en plus par la suite. Eh bien, je vais raconter maintenant une fin un petit peu fantaisiste, une conclusion à l'histoire d'Émilie Saget. Une ancienne élève du pensionnat, Julie von Guldenstube, aurait gardé contact avec elle et l'aurait mise en relation avec un célèbre parapsychologue russe, Alexander Akazov. Celui-ci lui aurait donné un nouveau travail, préceptrice dans une famille bourgeoise russe, en charge d'une vieille dame. Tout serait allé pour le mieux dans un premier temps, Émilie se serait même bien liée d'amitié avec elle. Mais un soir, la vieille dame aurait été assassinée, et des témoins auraient dit avoir vu Émilie Saget sortir de la maison. À moins que ce ne soit son double. Car la vraie Émilie se trouvait alors à une cinquantaine de kilomètres de là. Alors cette fin, évidemment, est complètement fausse. Selon mes recherches, cette histoire sanglante qui permettrait de diaboliser Émilie Saget vient d'un article qui a été publié en 2002 sur Heaven vs Darkness, un blog sur le paranormal au sérieux plus que douteux.
Ça, je comprends pas pourquoi, ça a l'air très fiable ça.
Ouais, Heaven vs Darkness, tu sens déjà qu'on va être sur un blog qualitatif. Non, ouais. Alors évidemment, tout ceci est faux. Le professeur Akazov, en revanche, existe, mais il s'appelle en réalité Alexandre Aksakov, donc c'est pas tout à fait la même orthographe. En fait, c'est un célèbre auteur russe qui est spécialisé dans le paranormal et qui avait raconté cette histoire en 1890 dans un livre qui s'appelait Spiritisme et Animisme, mais par contre, à l'intérieur, il n'y a pas de meurtre de vieille dame par un double maléfique. En revanche, il raconte bien tout le reste, donc toute l'histoire d'Émilie Saget, mais en se basant sur un récit qui est beaucoup plus ancien. En fait, l'histoire d'Émilie Saget, on ne l'a pas en 1890, on l'a apprise bien plus tôt. En fait, donc pour rappel, hein, je vais juste refaire un petit rappel des dates, les phénomènes se seraient passés entre 1845 et 1846. Eh bien, cette histoire, elle est racontée pour la première fois en 1859, c'est-à-dire un peu plus de 10 ans après, par Robert Dale Owen. Robert Dale Owen, c'est un homme politique américain. En gros, je vais te faire sa bio rapide, né à Glasgow en 1841, mort à Lake George en 1877, mais surtout, on se souvient de lui parce que c'était un grand partisan du spiritualisme. Quand les Sir Fox ont développé le spiritualisme à la fin des années 1840, il était à fond dedans. Il a écrit 2 ouvrages sur le sujet, notamment un qui a fait date, qui s'appelle « Footfalls on the Boundary of Another World », donc qui est visiblement très connu chez les spiritualistes, qui a vraiment une belle carrière, une belle popularité. Et c'est dans ce livre-là qu'on apprend l'histoire d'Émilie Saget, et non pas Émilie. On sent que c'est un Américain, donc peut-être que le mot Émilie, il avait du mal. Émilie Saget, on en a son histoire dans ce livre. Robert Dale Owen dit que l'histoire, il ne l'a pas inventée, qu'il la tient justement de cette fameuse Mademoiselle Julie de Guldenstube, qui n'était pas n'importe qui, puisque c'était une personne de la haute société, la deuxième fille du baron Louis de Guldenstube, et une ancienne élève du pensionnat. Julie avait 13 ans au moment du dédoublement, et faisait partie, enfin c'est ce qu'elle dit, des étudiantes qui étaient là au moment où il y avait Émilie Saget. Quand elle raconte cette histoire à Robert Dale Owen, elle a la vingtaine, et elle gravite déjà dans le milieu de l'ésotérisme. Donc le mouvement spiritualiste, donc comme je le disais, qui est né en 1848 avec les Sœurs Fox, a gagné l'Europe peu après. On en a déjà parlé, par exemple Victor Hugo qui faisait tourner les tables en 1855. Oui. Voilà. On est vraiment dans cette époque-là où c'est vraiment à la mode dans la bonne société de parler de spiritualisme. Et le père donc de Julie, le baron Louis de Guldenstube, était lui-même un féru de paranormal puisqu'il a publié en 1857 un livre au nom évocateur, La réalité des esprits et le phénomène merveilleux de leur écriture directe. Donc on est vraiment dans un microcosme qui est vraiment à fond sur le paranormal déjà à cette époque-là. Ce qui me fait penser que Julie pourrait avoir tout simplement inventé l'histoire, dans cette époque où le paranormal avait la cote, mais ça on ne le saura probablement jamais, malheureusement. On ne peut se fier qu'à son témoignage, qui est sans doute un peu biaisé par le fait qu'elle gravite dans ces milieux-là. C'est ainsi que je conclue ce dossier, c'est ma conclusion, je ne sais pas qu'est-ce que tu en penses toi. On a, en fait, au final, pour résumer, toute cette histoire se base sur un témoignage, celui de Julie de Guldenstube, qui l'a raconté à Robert Dale Owen, qui était un spiritualiste notoire.
Voilà, donc quand on a un si faible nombre de sources, et surtout une histoire aussi, il y a un truc étrange, c'est que cette fin fantaisiste inventée dans les années 2000, à quoi sert-elle ?
Ah bah, je pense à rajouter, elle n'a pas été inventée en 2000, elle a été inventée en 1890 en fait. Hein.
Mais elle a été racontée, tu l'as trouvée dans un blog qui date de...
De 2002, ouais. En fait c'est surtout, grosso modo quand tu vas chercher Émilie Saget sur internet, tu vas tomber principalement sur l'histoire sans cette fin un peu farfelue.
Oui, ouais, ce qui me semble,
voilà.
Ouais.
Non, mais Mais cette fin farfelue, ouais, est venue bien après, en fait. Elle n'est pas arrivée en 1890, j'ai dit une connerie, en 1890, c'était le livre qui reprenait l'histoire des Mélissagers, qui était écrit par un auteur russe. Mais en fait, dans ce livre-là, il n'était pas question de meurtre de vieille dame. C'est quelque chose qui est venu après. Je pense que ça a sans doute été influencé par les représentations qu'on peut avoir du double au cinéma, où chaque fois, il y a une histoire pour dramatiser un petit peu de meurtre ou quoi. Là, j'imagine que ça vient de ce terreau-là, que ça a été rajouté après, en fait. D'accord. Il n'y a pas eu d'histoire de meurtre avant. Mais sur l'histoire en elle-même de ces multiples apparitions du double qui est là en train de cueillir des fleurs ou qui reste assis sur la chaise pendant que l'autre se lève, tout ça, ça date vraiment de ce livre de Robert Dale Owen qui se base sur le témoignage de Julie Guldenstubé.
D'accord, qui est donc une ancienne élève.
Qui se décrit comme une ancienne élève,
Et d'accord, et c'est vérifiable, ça? Parce que moi, pour moi, dans ma tête, Emily Saget, ça avait toujours été une espèce de légende.
Bah, c'est justement là qu'on peut se poser la question. C'est-à-dire que moi, j'ai bien cherché, hein, j'ai pas trouvé de source fiable sur l'histoire d'Emily Saget.
Ouais.
Les seules sources écrites anciennes, parce que là, voilà, elle est très ancienne, hein, celle de Robert Dale Owen, on est 10-12 ans après les faits, hein, donc, enfin, après les faits
présumés. Oui, voilà, c'est ça qui est incroyable.
Donc, c'est assez récent, voilà. C'est pour moi la seule trace que j'ai. J'ai pas trouvé de vieilles traces de journaux qui en parlent. J'ai pas trouvé je pense pas qu'il y ait de registres disponibles. Le pensionnat n'existe plus, hein, d'ailleurs. Donc c'est ce qui rend compliqué aussi les recherches. Et puis il y a énormément de choses dans cette histoire qui ressemblent vraiment à de la légende.
Oui.
Il y a des motifs, qui sont vraiment caractéristiques des histoires fantastiques, contes fantastiques qu'on se racontait à l'époque, des nouvelles aussi.
C'est ça qui est ouf, c'est que 19e siècle, c'est aussi l'émergence de ce type de récit fantastique, donc ça me paraît pas étonnant que il y ait des histoires comme ça qu'on fasse passer pour vraies, et qui en fait, sont complètement des fictions.
Et surtout, compte tenu de la popularité du mouvement spiritualiste à l'époque, c'est curieux que, par exemple, on n'ait plus jamais eu de nouvelles d'Émilie Saget si la personne existait.
Oui,
si
Émilie
Saget existait, je pense qu'on aurait eu son témoignage quelque part, elle aurait sans doute parlé elle-même, puisqu'elle était vivante à l'époque. Hein.
Mmh.
Donc, si elle existait, elle était vivante à l'époque. Donc, c'est pour ça qu'on dirait vraiment... j'ai l'impression, en tout cas, en lisant l'histoire, parce que du coup, je me suis procuré le livre, justement, de Robert Dale Owen pour avoir la première version racontée de cette histoire. La première version écrite, et même dans la manière dont c'est écrit, ça ressemble vraiment à une nouvelle fantastique. Elle est présentée comme vraie, ça ressemble vraiment à une nouvelle fantastique.
Je pense qu'on peut classer cette affaire sans trop de problèmes.
Oui, de toute façon, on n'en saura pas plus.
Voilà.
L'étrange cas de Marie Passoula. En Guyane, dans la commune de Marie Passoula, l'internat pour jeunes filles du collège de Grand Mandifou a posé bien des questions ces dernières années. Des dizaines de filles l'ont fui et refusent d'y retourner. En mai 2016, un reportage de Guyane Première affirmait qu'il était hanté. Guyane Première, une chaîne du réseau de France Télévisions, diffuse en mai 2016 des images pour le moins perturbantes. On peut voir, allongée dans les hautes herbes, une jeune fille se débattre alors que des adultes tentent de la maîtriser. Le cas n'est pas isolé. La jeune fille est résidente de l'internat du collège de Marie Passoula. Elle fait partie de la communauté Wayana, un des 6 peuples amérindiens vivant en Guyane. Dans le courant de l'année 2016, elles sont une quarantaine à refuser de réintégrer l'internat. Après les vacances, près de 80 jeunes filles refuse d'y remettre les pieds. Quelle raison pourrait pousser autant de jeunes à interrompre leur scolarité de manière si abrupte? Les adolescentes Wayana interrogées rapportent des témoignages étranges. L'une d'entre elles témoigne anonymement. « Il apparaissait comme ça, et moi j'étais dans mes rêves. Comme si j'étais dans mes rêves et je voyais le petit garçon. Et il me disait de boire du sang, mais je ne voulais pas. Et comme je ne voulais pas, il baissait ma tête dans l'eau. Et c'est là que j'ai commencé à crier. » Une autre élève décrit un personnage qui apparaît dans sa vision. C'est un petit garçon, il a beaucoup de tatouages sur le dos. Elle continue plus tard. Je ne veux pas partir à l'internat. Quand je partirai à l'internat, peut-être qu'il va me trouver. Plus impressionnant encore, certaines de ces crises sont collectives. Un père de famille a vu une vingtaine de filles allongées par terre, en train de se débattre et se contorsionner comme si elles étaient attaquées. La plupart des jeunes filles ont entre 12 ans et 16 ans. Et avant d'arriver au collège, elles menaient une vie très traditionnelle dans les villages de culture Wayana. Elles sont, pour la plupart, éloignées de leurs parents ou de leur famille pour la première fois. Il faut préciser ici qu'il s'agit d'un collège pour Amérindiens. C'est un collège pour les cultures amérindiennes. La plupart des Guyanais non-amérindiens vont à Cayenne quand ils arrivent en âge d'aller au collège. L'internat en question est un grand bâtiment qui accueille des jeunes filles donc amérindiennes des villages du Haut-Maroni, villages qui sont pour la plupart isolés. La Maroni donc correspond à la zone frontalière en fait avec le Suriname, une ancienne colonie néerlandaise du coup, et c'est la frontière ouest de la Guyane, pour vous figurer, qui s'étend jusque à la frontière sud avec le Brésil. Le passage par ce collège est du coup presque obligatoire pour les Amérindiens de la région. Il y a peu de routes et un moyen de déplacement privilégié qui reste la pirogue. Pour certaines jeunes filles, il faut une journée entière depuis le pensionnat pour rejoindre leur famille. Le bâtiment en lui-même attise sans doute l'imagination des plus jeunes. Il est malheureusement vétuste, dans un très mauvais état général. Nous sommes à ce moment-là en 2016, mais l'internat devrait être fermé depuis déjà 3 ans. Une commission de sécurité a émis un avis défavorable à la poursuite de l'accueil des jeunes élèves pour des questions sanitaires, mais évidemment, les hébergements étant manquants dans la région, l'internat est resté ouvert pour les collégiens. Il semble un peu éloigné de tout, et c'est plutôt normal, car en termes de superficie, Maripasoula est la plus grande commune du territoire français. Elle fait 18 000 km². C'est environ une fois et demie la taille de l'Île-de-France, si je me fie à Wikipédia. Cependant, elle ne compte que 13 000 habitants. En fait, une immense majorité du territoire est occupée par le parc amazonien, et la commune est en fait subdivisée en 8 villages, dont seulement 2 sont accessibles par voie terrestre. Pour les autres, il faut emprunter la pirogue ou l'avion. Donc forcément, on peut imaginer l'isolement que ressentent ces personnes qui se retrouvent en plus de cela dans un bâtiment dans un état de délabrement général, d'autant que l'emplacement en lui-même peut faire peur. Ce lieu de résidence se tient juste à côté d'un cimetière, et il est lui-même construit sur un ancien cimetière. La direction du collège de Maripasoula aurait également agi de manière étrange. Avant les crises, ils auraient demandé aux jeunes filles de brûler tous les signes religieux présents à l'internat, les statues de Jésus, les représentations de la Vierge, les vêtements qui étaient présents dans l'établissement, les Bibles également. Et ce serait à ce moment-là que les crises auraient commencé si l'on en croit certains témoignages. L'équipe de journalistes de Guyane Première n'a pas été autorisée à rentrer dans l'internat, mais une association qui s'occupe du bien-être des jeunes Amérindiens a pris des photos pour les montrer aux parents. Ces mêmes parents racontent ce que leurs enfants leur ont dit. Une mère notamment explique, je cite, « Les pasteurs ont dit à toutes les filles malades de ne pas retourner à l'école. Il y a une fille de Taluan, donc un des villages de Haute-Maroni, qui a vu quelque chose, quelqu'un habillé qui s'est évaporé comme la fumée. » Les enfants disaient depuis des mois qu'il se passait des choses à l'internat, qu'il y avait un mauvais esprit, mais personne ne croyait nos enfants, même les surveillants. Devant ce désarroi, plusieurs filles du pensionnat ont été logées chez les pasteurs évangélistes de la région, souvent situés du côté Suriname du Haut-Maroni. L'une d'entre elles, qui avait déjà témoigné auparavant, raconte « Ils ont prié pour moi », donc elle parle des pasteurs évangélistes de la région, « Ils ont prié pour moi et puis j'ai vomi ». Là, la journaliste la coupe et dit « D'après eux, c'est quoi ? Comment eux, ils interprètent tout ça ?» La jeune fille reprend, visiblement paniquée. « Il y a des trucs qui sortent. Quand on vomit, il y a des trucs qui sortent, par exemple des grenouilles. » Où la journaliste la recoupe. « Tu as vu ça ? » ?»« Oui. Il y a une grenouille qui est sortie de ta bouche ?» La jeune fille reprend. « J'ai vu, mais il y a certains qui prient et ils vont... Enfin, ils ont vu. » Certaines filles du pensionnat de Maripasoula ont consulté un médecin, mais ni fièvre, ni tension, ni rien de particulier n'a été détecté. Pour les médecins, il n'y a rien à signaler, et pourtant, les crises continuent tant à l'échelle individuelle que collective.
Les habitants parlent, pour certains, du Baclou comme cause potentielle des visions. Alors, le Baclou, c'est un gnome du folklore guyanais qui ressemble en partie à un humain, mais avec des bouts empruntés à des animaux. Il aurait une tête qui ressemblerait un peu plus à celle d'un cochon. Il mesure environ 1 mètre. Il peut parfois ressembler à un enfant. On peut le confondre avec un enfant. Selon franceguyane.fr, il est aussi appelé gnome visqueux. C'est un monstre, pour la faire courte, c'est un monstre à qui on fait appel en fait, c'est un monstre que l'on invoque si l'on veut nuire à quelqu'un. Il doit obéir à son propriétaire et faire ce qu'on lui demande. Mais le truc c'est que le Baclou ne fait pas partie de la culture amérindienne. Il est davantage présent dans la culture guyanaise, dans la culture créole, mais pas amérindienne. On le trouve pas particulièrement par exemple chez les 6 peuples dont les Wayana font partie. Donc il semble peu probable que les jeunes filles décrivent ce type de choses ou croient l'avoir vu, puisque de toute façon ça ne fait pas partie de leur culture. Et elles n'ont, pour la plupart, sans doute jamais entendu parler. Non, en fait, il y a un facteur d'explication, disons, qui permet de contextualiser le mal-être vécu dans la région qui est beaucoup plus sérieux. Le taux de suicide chez les Amérindiens vivant en Guyane est extrêmement élevé. Depuis le début des années 2000, en fait, les communautés amérindiennes de Guyane connaissent ce qu'on appelle une épidémie de suicide. Ces suicides ne concernent pas uniquement les adultes, mais également les adolescents et parfois même les très jeunes adolescents. Et les taux de suicide sont, chez ces populations, entre 10 et 25 fois plus élevés qu'en France métropolitaine ou dans le reste de la Guyane. Donc ces suicides ne touchent pas nécessairement une population sur un territoire, mais vraiment des peuples en particulier et des cultures amérindiennes en particulier. Donc ça pourrait ressembler du coup à peut-être une vague d'hystérie collective qui entraînerait le suicide de certaines de ces personnes. Et une association, l'association ADER, qui a rencontré les parents d'élèves, mais c'est parfois difficile d'ouvrir le dialogue quand un des pasteurs, en l'occurrence un des pasteurs évangélistes, affirme qu'il y a des esprits maléfiques à l'internat et que les occidentaux ne les connaissent pas. Ce qui est étrange, c'est que seule Guyane Première se soit fait l'écho de ce phénomène, alors que, dans le premier reportage diffusé le 4 mai 2016, du coup, tout le monde ne parlait que de ça dans la région. Et je parle du coup des événements du pensionnat de Maripasoula. Le deuxième reportage, long d'un quart d'heure, diffusé le 16 mai suivant, revient, on va dire, plus en détail et dévoile plus de témoignages, dont certains que j'ai cités dans cette histoire. Mais c'est le seul média que j'ai trouvé qui parle de ce problème et qui recueille ce type de témoignages des jeunes filles. Aujourd'hui, l'histoire du pensionnat semble en apparence s'être calmée. Ni le rectorat, ni le collège n'ont communiqué officiellement sur ce qui s'est passé. En fait, ce n'est pas vraiment le cas. Rien ne s'est vraiment calmé. Les crises des jeunes filles semblent ne plus faire l'objet d'articles, mais les conditions sanitaires, pourtant, se sont dégradées puisque l'année suivante, en 2017, une suspicion de gale a obligé les 103 élèves de l'internat à retourner dans leur famille pendant une semaine. Cette même année 2017, en novembre cette fois, les parents d'élèves ont dénoncé une situation alarmante. Les enfants ont été nourris plusieurs jours de suite avec uniquement du riz et du couac. Donc le couac, c'est une semoule fabriquée à partir de racines de manioc. Et c'est pas fini. J'ai continué les recherches et en mars 2018, le collège a été infesté de puces. Ça a forcé l'établissement à fermer pendant plusieurs semaines et l'histoire continue jusqu'en septembre 2019, donc il n'y a pas si longtemps, puisque l'équipe éducative du collège a exercé son droit de retrait à cause de fumée toxique qui se dégageait d'une décharge municipale qui était située juste à côté de l'établissement. Malheureusement, les vagues de suicides continuent aussi chez les Amérindiens et touchent également le collège de Maripasoula. En mai 2019, c'est l'aide documentaliste du collège de Maripasoula qui s'est donné la mort. Il s'agissait à ce moment-là du 7e suicide amérindien de la région. Et selon un article de France Guyane, c'est le 2e membre du personnel décédé cette année-là. Mais c'est sans compter, selon eux, je me base sur leur article, sur les nombreuses tentatives de suicide, dont le nombre serait plus impressionnant encore. Une commission sénatoriale a souligné en 2015 que le choc découlant de la découverte du monde moderne et le non-respect des droits élémentaires, notamment d'accès à l'eau potable et à l'électricité, ainsi que la pollution au mercure qui peut être provoquée par l'orpaillage illégal pouvaient être des facteurs d'explication à ces vagues de suicides. Donc l'orpaillage, pour faire rapidement pour les auditeurs et auditrices qui ne connaîtraient pas, c'est les activités qui consistent à chercher de l'or dans les fleuves et des rivières et qui du coup pourraient amener à des intoxications locales. Malheureusement, pas grand-chose n'est fait pour aider ces populations. En 2017, la construction d'un nouveau collège et lycée a été annoncée à Maripasoula, mais son ouverture ne devrait pas arriver avant 2022 dans le meilleur des cas et ne réglerait pas du tout les nombreux problèmes qu'il y a autour. En fait, il semble plutôt y avoir une sorte de grande quantité de facteurs qui conduisent à un espèce d'immense mal-être de ces populations. Et pour moi, je serais tenté de te dire que l'affaire est classée, ce que Guyane Première, et je terminerai là-dessus, ce que Guyane Première présentait en premier lieu en 2016 comme une affaire de pensionnat hanté, semble plutôt, pour moi en tout cas, être le résultat de conditions de vie catastrophiques et surtout d'un gouvernement français qui a complètement oublié certains de ses territoires, plutôt que... un baclou ou une apparition quelconque.
C'est ça qui me met en colère. Je me suis retenu de t'interrompre parce que je connaissais pas du tout cette histoire et je la trouve passionnante. Donc je voulais attendre que tu arrives jusqu'au bout. J'avais 2-3 questions. Mm-hmm. C'est témoignage de jeunes filles qui parlent donc d'apparition, qui parlent de grenouilles qui leur sortent de la bouche. Qui leur a bourré le crâne pour qu'elles pensent à ça? Est-ce qu'il y a une forte présence religieuse dans le coin ou pas?
Ouais, il y a une forte présence religieuse à mon avis parce qu'il y a des prêtres évangélistes. En fait, c'est il faut savoir que la population amérindienne dans cette région-là, depuis l'apparition des jésuites au XVIIe ou XVIIIe siècle, a été divisée par 3. La population des Amérindiens dans cette région a été divisée par 3 et visiblement elle continue de décroître parce que il y a des quantités de suicides vraiment phénoménales. Et ce qui est incroyable, c'est qu'en effet, ça ressemble fortement, très fortement à du bourrage de crâne. Et la question, la journaliste a l'air de le comprendre quand elle lui pose des questions et qu'elle lui dit « mais t'es sûr que c'est toi qui as vu ça ?»
Non,
elle essaie de lui faire de lui faire parler et il semble y avoir une espèce de si le témoignage de ces jeunes filles est vrai en ce qui concerne par exemple la destruction des idoles et des représentations chrétiennes dans le collège, il semble y avoir une espèce de grande tension entre une équipe éducative qui voudrait peut-être préserver la culture amérindienne et en même temps des pasteurs évangélistes qui ont une emprise, et le mot est utilisé dans le reportage, le mot emprise est utilisé, qui semble avoir une emprise extrêmement forte sur ces jeunes filles-là. Donc j'ai l'impression que, alors j'ai pas tous les tenants et aboutissants, évidemment, j'ai pas toutes les connaissances, même si j'ai lu un grand nombre d'articles et regardé les reportages en question, j'ai pas du tout les connaissances pour connaître tous les enjeux, mais il semble y avoir quand même un espèce d'immense problème avec ces pasteurs qui, des fois, semblent vouloir aider la population, mais à d'autres reprises, oui, on a l'air de bourrer le crâne à ces jeunes filles.
C'est ce que j'ai cru comprendre en t'écoutant raconter l'histoire, et c'est ce qui m'a mis le plus en colère, je pense. Au-delà du fait que, oui, l'État français abandonne certains de ses territoires et certaines de ses populations, ce qui est scandaleux, ce qui m'énerve aussi, c'est cette espèce d'ensemble de prêtres évangélistes qui ont envie de continuer à évangéliser l'Amérique latine comme si on était à l'époque de la colonisation. C'est un truc qui m'énerve vraiment, mais qui a aucun respect pour leur culture, pour leur culture originelle, et qui essayent de leur bourrer le crâne en leur mettant dans la tête des trucs qui sont vraiment nauséabonds, qui arrivent à convaincre des personnes qui vivent dans la misère et qui sont dans une tristesse absolue, dans une détresse profonde, qui viennent et qui leur bourrent le crâne en leur faisant croire qu'il y a des grenouilles qui sortent de leur bouche, qu'il se passe des trucs maléfiques et qu'il faut se tourner vers Dieu pour réussir à s'en sortir. C'est un truc qui me fait gerber. Voilà, je suis content que t'aies mis en lumière ça, et ça ne fait que renforcer... voilà, le dégoût profond que j'ai pour ces personnes qui cherchent à évangéliser à tout prix en exploitant en fait la misère des gens.
Et d'autant que dans le reportage, on voit bien que certains de ces pasteurs, et je crois que le reportage le précise, sont américains. Dire c'est même pas ça pourrait être des populations locales, ça pourrait être, mais non, là en l'occurrence, j'avais bien l'impression que c'était des blancs et certains américains qui cherchaient à, enfin, qui étaient en tous les cas des pasteurs évangélistes de la région. Donc ouais, ça pose énormément de problèmes et j'étais très étonné en fait quand j'ai fait mes recherches pour ce numéro du Bureau des Mystères de n'en avoir jamais entendu parler. Et en fait, il y a quelques articles dans la presse, disons, métropolitaine, qui émergent, mais c'est plus des articles anglais sur l'économie qui vont parler, parce que c'est aussi un endroit où il y a énormément de chômage. Il y a un chômage qui s'élève à près de, je crois, presque 80% de la population active. Donc ça va être des reportages qui vont être anglais sur le chômage, sur la construction de nouveaux bâtiments, la rénovation. Mais en fait, quand on lit les médias locaux, le ton, il est pas du tout le même. Il est pas du tout, mais alors pas du tout le même. On voit qu'il y a une quantité de problèmes. Il y a beaucoup de cultures, en fait. Je savais pas aussi ça. Il y a beaucoup de cultures qui vivent finalement dans des espaces pas si étendus, parce que il y a aussi la culture brésilienne au sud de la Guyane. Il y a des Brésiliens, il y a des Amérindiens, des Guyanais, des Créoles qui vivent.
Culture Hmong aussi, très présente.
Culture Hmong aussi, ouais, c'est ça, qui vivent comme ça. Qui se côtoient, mais qui se côtoient pas tant que ça, parce que là, le collège est uniquement destiné aux Amérindiens, et on a l'impression qu'il y a genre un espèce d'abandon total, alors que ce sont des gens qui vivent sur le sol français.
Bah merci de l'avoir mis en lumière, et ça nous montre encore une fois l'importance de préserver à tout prix les médias locaux. C'est très important,
ouais,
parce que la presse nationale ne s'intéresse pas à ce genre de sujet, malheureusement, c'est sont trop local pour eux, alors que pourtant... C'est une histoire locale qui en dit long sur la manière dont la métropole traite, dont le pouvoir français traite ses
outre-mer. Ses anciennes colonies, bah oui.
Et ses anciennes colonies.
Donc malheureusement, je pense qu'on peut, il y a une tonne de facteurs qui font qu'on peut expliquer le mal-être et qu'on peut expliquer les visions, tout simplement, que ce soit pour des causes de stress, des causes de pollution. Ou autre encore, mais voilà, je pense qu'on peut malheureusement classer l'affaire et ne faire finalement qu'espérer que l'État fasse quelque chose.
Sur un ton un petit peu plus léger, on va peut-être maintenant passer à nos recommandations avant de terminer cette émission. Moi, j'avais envie de vous recommander deux choses pour poursuivre sur la thématique du double, puisque moi, je me suis plus intéressé dans mes recommandations à la thématique du double qu'à la thématique du pensionnat. Et évidemment, quand on pense à la figure du double, il y a un film incontournable qui est sorti l'année dernière, qui est Us, de Jordan Peele. Alors, je vais pas re-rentrer dans le débat sur Lupita Nyong'o méritait un Oscar qu'elle n'a pas eu, ce qui est dommage, et Florence Pugh non plus pour Midsommar,
voilà, mais bon. On pourrait réouvrir ce débat éternellement, malheureusement, elle méritait d'être nominée, toutes les deux d'ailleurs, avec Florence Pugh,
voilà,
mais bon.
Toutes les deux, l'une ou l'autre gagne, je m'en fous, mais elles auraient dû être nommées toutes les deux, enfin voilà, mais c'est... Voilà. Encore une fois, les Oscars et le cinéma de genre, et puis les Oscars et le racisme.
Et le racisme, exactement.
J'avais dit qu'on était plus léger, on va essayer de redevenir plus léger. Alors, Us de Jordan Peele, je vous refais grosso modo le pitch. On a une famille qui est dans sa maison et qui, un soir, voit débarquer des gens devant sa maison qui, bah, comme par exemple, lui ressemblent vraiment étrangement. Est-ce que ce sont leurs doubles? Spoiler, oui.
Une petite maison de vacances, il faut préciser. Ils
petite
voyagent.
Maison de vacances, oui.
C'est une maison de vacances, ils sont pas loin de... Je crois que c'est la côte ouest, si je dis pas de bêtises.
Ils sont en bord de mer, en tout cas.
Ils sont en bord de mer, ils sont sur la côte ouest, et ils sont dans leur petite maison de vacances où une des membres de la famille a grandi.
Voilà. Je n'accroche pas forcément à tous les reveals assez grand guignol kitsch de Jordan Peele, mais j'avais aussi eu le problème sur la fin de Get Out, hein, notamment, mais bon, le côté grand guignol kitsch, c'est assez propre à Jordan Peele, c'est vraiment quelque chose qu'il explore dans ses deux premiers films.
Il vient de l'humour aussi, hein, il vient aussi du monde de l'humour, et moi je trouve que ça lui donne un ton, ça lui donne son ton en fait.
Qui se différencie. On y est plus ou moins sensible, en l'occurrence, moi, c'était pas trop mon cas, mais vraiment, on est dans une démarche d'auteur de mettre ces thématiques-là et ce traitement-là dans ses films. Ça, on peut pas lui enlever. Ce que j'ai beaucoup aimé dans Us, c'est son traitement du double en tant que part sombre de l'humanité. C'est quelque chose qui m'a vraiment interpellé dans le film, qui est très présent, et je voulais juste parler d'une séquence que je trouvais affreuse et assez glaçante, où on voit les tethered, donc les tethered, c'est les liés, je crois, qu'ils disent en VF, qui sont en fait les doubles, où on apprend, spoiler, voilà, donc si vous, arrêtez-vous là.
Si vous n'avez pas vu le film, allez voir le film, il est excellent.
Parce que là, je vais spoiler ce que sont les teasers, non ? Donc les liés, les doubles en fait, sont en fait effectivement des doubles, mais qui vivent sous terre pendant et qui vont ressortir. C'est donc là tout le propos du film, c'est le moment où ils ressortent pour gagner leur liberté et arriver dans notre monde, qu'ils quittent les sous-sols. Et en fait, il y a des scènes affreuses dans Us qui sont assez vraiment folles, où on voit les teasers de sous terre qui reproduisent les mouvements de leurs originaux, mais qui les reproduisent dans le vide, dans leur complexe sous la terre, qui font leurs mouvements, qui font exactement les mêmes mouvements, mais sans les objets, sans rien, dans des environnements vides.
Du coup, des gestes qui deviennent, qui sont signifiants à la surface, deviennent complètement dénués de sens en sous-sol, quoi.
Ça dégage une folie hyper perturbante sur ces scènes-là. Et en fait, ces scènes-là m'ont évidemment fait penser à Émilie Sagé. En fait, quand j'écrivais l'histoire sur Émilie Sagé, ça m'a immédiatement fait penser à ces scènes-là de Us de Jordan Peele, puisque Émilie Sagé, dans cette histoire, on voit souvent le personnage, son double, en train de faire des choses qui n'ont aucun sens, qui est là avec une craie en train d'écrire dans le vide, alors que l'autre est en train de vraiment écrire sur quelque chose. Donc voilà, ça m'avait fait penser à Jordan Peele, mais ce n'est pas ma recommandation principale. Regardez toujours Us, c'est très bien. Non, ma recommandation par rapport à la figure du double, c'est une nouvelle de Guy de Maupassant. Qui s'appelle Lui, point d'interrogation.
C'est marrant que t'aies... Il y en a un qui s'appelle Us, l'autre qui s'appelle Lui.
Ah,
il y a un petit truc, ouais. Quand même.
Effectivement. Non, Lui, c'est une nouvelle de Guy de Maupassant qui est sortie en 1883, donc c'est-à-dire 3 ans avant Le Horla, qui est quand même la grande nouvelle fantastique de Guy de Maupassant. Quand on passe à l'écriture fantastique de Guy de Maupassant, c'est toujours celui-là qu'on nous ressort, Le Horla. J'aime beaucoup Le Horla, je vais y revenir. Mais je ne connaissais pas celle-ci de nouvelle, et on y trouve en fait déjà le thème de la paranoïa et en partie du double. C'est une nouvelle qui est très courte, plutôt effrayante pour dire vrai, et qui aborde assez subtilement ce thème-là du double. Le narrateur dans cette histoire, c'est un homme qui est sur le point de se marier et qui écrit à un ami. Alors on comprend très vite que c'est un coureur de jupons invétéré, mais il dit qu'il va se marier pour ne pas être seul, parce qu'il a peur de lui-même et de ses propres peurs. Et il va décrire ensuite qu'est-ce qui lui arrive. Donc je vais pas vous spoiler, hein, parce que la nouvelle est très courte, vous la trouvez assez facilement sur internet d'ailleurs, ça se lit assez rapidement et je trouve ça vraiment très bien. C'est une espèce de pour moi, cette nouvelle-là, quand je l'ai lu, j'ai eu l'impression que Maupassant voulait représenter le vertige qu'on peut ressentir quand on se dissocie de son propre corps. Tu sais, cette sensation qu'on peut avoir quand on a l'impression d'être momentanément déconnecté du monde. C'est une sensation qu'on a, soudainement on commence à prendre conscience de tous nos gestes. Le flou un petit peu général, quand dans la vie s'estompe, on a l'impression de voir les choses un peu trop nettement, quoi. On n'a pas l'impression de faire vraiment partie du monde, mais de le voir un peu de l'extérieur, y compris son propre corps. C'est-à-dire qu'on voit ses mains bouger, par exemple. On a l'impression de voir ses mains bouger. Moi, ça me parle beaucoup, puisque c'est une sensation que je ressens régulièrement depuis l'enfance et dont je me suis beaucoup inspiré moi-même quand j'écrivais des textes de fiction. Là, le voir traité de cette manière-là chez Maupassant, j'ai trouvé ça très fort et je trouve le texte magnifique. Donc je conseille Lui de Guy de Maupassant. Et voilà, je vais évidemment en conseiller 2 autres, puisque Guy de Maupassant n'a pas fait que Lui, évidemment. Il a fait Le Horla, qui est un incontournable. C'est un petit peu relou à lire quand on est au lycée. J'ai eu des mauvais souvenirs de devoir lire Le Horla au lycée.
Déjà parce que ça me faisait peur. Tout est chiant à lire au lycée. On nous oblige. Tout est chiant à lire.
Mais c'est ça. Et c'est un petit peu le message que je voudrais transmettre. C'est que oui, il y a des trucs qu'on lit au lycée. Sur le moment, on trouve ça chiant. Et en fait, après, on y revient. On trouve que c'est formidable. Et Le Horla de Guy de Maupassant, c'est formidable. C'est une nouvelle, mais c'est. Alors, il y a 2 versions. Je parle plutôt de la deuxième, qui est sous forme de journal intime, la plus connue, en fait. C'est incroyable. Je l'ai relu là récemment, Le Horla, c'est une excellente nouvelle fantastique, ça préfigure tellement de choses qu'on va voir au cinéma après. Il y a tellement d'inspiration, voilà. Donc si vous ne l'avez pas lu, lisez-le, si vous l'avez lu au lycée et que vous en avez un mauvais souvenir, franchement, retournez-y, et vous verrez que en fait c'est vachement bien. Et j'ai envie de dire la même chose pour une autre nouvelle que j'ai redouverte il y a quelques mois, parce que j'ai une amie qui en a parlé sur Twitter et qui avait dit « Ah, le twist de fin de La Parure, c'était quand même quelque chose ». Et j'ai fait « C'est quoi La Parure de Maupassant, ça me dit rien ». Et donc j'ai acheté le librio 2 € de La Parure de Guy de Maupassant, et effectivement le twist m'a scié. C'est parce qu'en fait on n'a pas attendu Shyamalan pour faire des twists, hein, ça paraît con de le dire comme ça. Mais en fait oui, dans la littérature fantastique française, on avait des twists de fous déjà au 19e siècle, et on a voilà, il y a des l'écriture de Maupassant, je la trouve aujourd'hui encore très actuelle, elle est très vive, il y a des descriptions qui en disent suffisamment sans en faire trop. En fait, il y a des moments où c'est même aussi cinématographique que du Stephen King, vraiment. Donc voilà, mon conseil, de reliser Maupassant.
Reliser Maupassant.
Ou lisez Maupassant. En tout cas, ces trois-là, c'est stamp of approval, comme on dit. Donc je vais voilà, La Parure, Le Horla et Lui de Guy de Maupassant.
Ben écoute, très bien. Quant à moi, alors je vais faire sans doute plus court, parce que j'ai regardé une série Netflix qui est paru en janvier 2020 et qui a été un peu éclipsé par une autre série dont j'ai parlé la dernière fois d'ailleurs dans le Bureau des Mystères de l'Amour, qui était un peu éclipsé par la saison 2 de Sex Education. Et c'est fort dommage puisque je vais vous parler de Arès. Alors Arès, c'est le nom de la divinité guerrière, évidemment. Là, en l'occurrence, c'est pas forcément de ça dont il va s'agir. Enfin, ce sera lié, évidemment. Mais je vous parlais de Arès, qui est cette série néerlandaise qui est parue en janvier 2020, qui est assez courte dans son format, puisque c'est 8 épisodes de environ une demi-heure pour la première saison. Donc c'est un format que je trouvais de plus en plus rare, et que j'ai l'impression est beaucoup en train de revenir, parce qu'en parallèle, j'ai regardé, rien à voir, mais j'ai regardé The Servant, qui est donc la création Apple originale pour Apple TV+, qui est, elle, sur un format 30 minutes de 10 épisodes. Donc pareil, c'est quelque chose d'assez court. Là on a 8 épisodes, et qui traite du coup cette série d'une jeune femme qui vient de la classe populaire, qui est en études de médecine, qui a l'air assez brillante et en même temps très ambitieuse, avec une ambition qui l'amène parfois à être un peu condescendante vis-à-vis de ses enseignants, ou disons à contester assez facilement la parole de ses enseignants. Et en fait, elle va être approchée, cette jeune femme, donc de classe populaire, qui est métisse, c'est important de le préciser, elle est métisse, elle va être approchée par une société, une sorte de société secrète, donc cette société secrète qui s'appelle Arès, et qui va l'intégrer à ses rites et à son espèce de pensionnat. Et du coup, Arès va recruter cette jeune femme, et elle va rapidement se rendre compte qu'elle n'est pas du tout à sa place. C'est-à-dire que tout le monde dans cette société, déjà tout le monde est blanc, ce sont des Néerlandais pure souche. Ils sont apparemment, alors si on fait attention, j'ai pas eu cette culture-là, je l'ai lu après, mais si on fait attention au nom de famille, ça évoque des noms de la noblesse néerlandaise. Et elle va se rendre compte qu'il y a une espèce de... Bon, elle sait pas trop pourquoi elle est là, et je vous le dévoilerai pas, évidemment, puisque ça fait partie des révélations de la série. Mais c'est une série que j'ai trouvée très intéressante et très bien faite pour plusieurs raisons. Premièrement, visuellement, ça fait énormément référence à la peinture néerlandaise. Ça fait énormément référence au clair-obscur qu'on peut retrouver chez Rembrandt ou chez Vermeer. Et en cela, la série est souvent visuellement, elle claque. Genre, visuellement, vraiment, il y a des plans qui sont assez forts. Il y a des objets, il y a des matières qui sont mises en avant et qui sont vraiment très très jolies. Et donc déjà, visuellement, elle est très chouette. Ensuite, sa critique, le siècle d'or néerlandais. Et là, c'est là aussi que je fais le lien avec l'histoire que je vous ai racontée aujourd'hui dans le Bureau des Mystères, puisque le siècle d'or néerlandais est extrêmement lié à la colonisation. À la colonisation, et en fait, sans trop vous en dévoiler, la série revient énormément, et c'est pour ça que le fait que la protagoniste principale soit métisse est important, ça revient énormément sur le siècle d'or, donc la colonisation néerlandaise, et la manière dont finalement un si petit pays a pu prospérer économiquement de cette manière-là. Et en fait, ça va être, il va y avoir cette espèce de grande critique de la construction des Pays-Bas en tant que pays. Et donc du coup, c'est une série que j'ai vraiment appréciée, même si il faut avouer que il y a des problèmes de construction, je veux dire en tant que série, en tant que si on devait s'attacher à la narration, il y a des problèmes de construction de certains personnages, notamment des personnages secondaires, des amis de la protagoniste principale qui sont très peu développés, mais qui en même temps ont une importance scénaristique. Du coup, c'est un peu particulier. Il y a une place centrale qui est accordée aux parents, puisque tout est une question dans cette société secrète, évidemment, on est coopté vis-à-vis de son héritage, et du coup les parents ont une place très importante, mais on connaît les parents de personne sauf de la protagoniste principale, qui vient d'une classe, du coup de la classe moyenne. Du coup, c'est un petit peu particulier, il y a des choses comme ça, on a l'impression qu'ils sont un peu laissés de côté. C'est aussi lié au format, le format qui essaie de se concentrer un peu sur l'essentiel, comme ça, de 8 épisodes de 30 minutes. Mais du coup, c'est une série que je conseille quand même, parce que, du coup, moi ça m'a appris quand même pas mal de choses sur l'histoire des Pays-Bas, sur la manière dont le pays s'est construit, et finalement, ouais, de s'intéresser comme ça à cette première série, parce que c'est la première série néerlandaise de Netflix, et du coup, voilà, je la conseille presque à 100%.
C'est avec cette recommandation à presque 100% que se termine cet épisode du Bureau des Mystères. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, sur le compte Twitter BDM Le Podcast, sur notre page Facebook Charles et Mathias, également en librairie sur le livre Le Bureau des Mystères, qui est disponible un petit peu partout. Et vous pouvez aussi nous retrouver sur notre Discord, tous les liens sont évidemment en description.
Quant à nous, on vous retrouve le mois prochain pour un nouveau numéro, et d'ici là, vérifiez que votre double ne se tient pas juste derrière vous.